podcast.com. Essaye ça.
Hey, c'est Jason Keys en remplacement de Tommy Godette, spécial cette semaine. Écoutez, Tommy Godette a été kidnappé par les elfes de Kaladesh. Mm-hmm. Ils appréciaient vraiment pas qu'il partait à rire à chaque fois qu'il entendait le mot Kaladesh. Donc, ils nous ont kidnappé notre Tommy et nous ont dit qu'ils n'allaient pas nous le remettre tant qu'on n'allait pas leur donner 8 parts de Ether Energy de Kaladesh, mais vu qu'il n'y a plus personne qui joue avec ces cartes-là, ben on ne sait pas où on en trouver. Fait que c'est moi qui pilote Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Jonathan, qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
Ce soir, c'est Shovel Knight. Je suis en retard. Je sais que c'est un jeu qui a pas mal tous les hipsters indie gamers ont déjà fini avec tous les DLC puis les puzzle games puis tout. Mais le soundtrack est solide, puis je viens de commencer là-dessus, fait que c'est ma proposition de la semaine. Là.
C'est cool. Puis on a aussi avec nous Andy Jacques. Andy, la semaine passée, tu nous as dit que tu avais désinstallé Arena, tu étais écœuré. L'as-tu réinstallé depuis?
Je l'ai réinstallé. D'ailleurs, il est jamais trop tard. On va commencer un indie game, juste FYI. Là. Donc, Shovel Knight. Moi, je suis sur Rogue Legacy 2 en ce moment. Fait que, anyway, je l'ai réinstallé. Hier j'ai fait un angry, je sais pas si vous avez déjà fait ça à la maison, Arena, là, de faire un angry buy qu'on appelle, d'être en crise puis de peser vite pour le claim, puis tu sais faire fuck you, puis là il restait 8 heures et dans la nuit au quick draft, je pense, de Lord of the Ring, fait que j'ai comme été fâché de perdre, fait que là j'ai fait sort, puis là ça a acheté un autre draft immédiatement après. J'étais fuck you, Arena. T'es tellement cave. Fait que je me suis refait un autre draft rapide. Il me restait comme 8 heures. Puis là, ça m'a forcé à jouer 3 games. J'ai réussi à ne pas désinstaller. Même si j'ai comme perdu comme une marde pendant 3-4 games. Mais tu sais, j'ai quand même réussi à ne pas désinstaller en sachant très bien que c'est un petit peu de ma faute. Là. Il faut faire attention avec la haine.
C'est pas la faute du shuffler.
C'est la faute du clicker.
Hey, on a entendu la voix de Emmanuel côté Séguin. C'est toi qui nous a préparé le gros programme de la soirée.
Écoute, après avoir passé un gros mois de juillet à se plonger dans l'ancien Magic, on va aujourd'hui se plonger dans l'actualité et dans le futur.
Dans le moderne.
Magic, là. Écoute, la fin de semaine passée, c'était le Magic in Barcelona. Mm-hmm. Ou Barcelona, je pense qu'il faut que tu le dises comme si tu avais un poil sur le bout de la langue. Donc il s'est passé toutes sortes d'affaires, là, plein d'annonces, plein d'actions magiquesques, et c'est de ça qu'on va parler cette semaine.
Écoute, lance-toi.
Ok, je vais partager mon écran si je le puis.
Ouais, tu le peux.
Une petite seconde. Pourquoi ça marche pas?
C'est pas obligé de marcher.
There you go.
Ah.
Voilà. Alors, premièrement, oui, c'était le Pro Tour toute la fin de semaine. Et cette fois-ci, c'était le Pro Tour Lord of the Rings, hein, évidemment, le dernier set qui est sorti. Et Lord of the Rings, on le rappelle, c'est un set qui s'en allait straight to modern. Donc, le format à l'honneur était moderne. Il y avait également du draft les deux jours. Là, comme la dernière fois, il draftait le matin, puis il faisait 3 rondes de limité. Ensuite, il jouait avec leur deck de moderne, 5 rondes. Il revenait le lendemain, un autre draft, 3 rondes de limité et un autre 5 rondes de moderne pour faire le top 8. On peut voir à l'écran, là, ceux qui nous suivent en vidéo, le metagame, là, c'est un field quand même assez réparti là, en moderne. Là, c'est un format qui existe depuis longtemps, qui a eu le temps de se placer. Il y a beaucoup de decks là, quand même qui sont relativement là, top tier 1, tier 2. Il y avait plusieurs stratégies qu'on va retrouver. Le deck le plus prééminent, c'était Rakdos Evoke, qu'on va voir un peu plus tard. Là, principalement, certains l'appellent le Rakdos Scam, qui est axé sur les cartes Evoke, Grief et Fury. Sinon, tu sais, t'as le Mono Green Tron, Yagmoth, toutes sortes de. T'as les Izzet Murktide, des cartes dont on a déjà parlé ici. Et le Pro Tour Lord of the Ring ne serait pas le Pro Tour Lord of the Ring sans quelques cartes du Seigneur des Anneaux. Et elles ont fait leur marque. On peut voir ici la liste des cartes les plus jouées dans le field. Là, à noter qu'il y avait 260 quelques joueurs. Et les deux cartes les plus jouées, d'habitude, ils vont faire comme un breakdown des, tu sais, mettons, les 20 cartes les plus jouées. Au total, puis les 20 cartes les plus jouées du dernier set qui est sorti. Là, c'était pas grave parce que c'était les mêmes cartes des deux bords. C'était les deux cartes les plus jouées. C'était The One Ring avec 450 copies au total. Là, tu sais,
quand même, hein?
Ça fait à peu près deux copies par joueur. Là.
Et puis les Orkish. Compétence de 2023.
Ouais. Puis les Orkish Bowmasters avec 413 copies au total. Sinon, après ça, tu peux voir, là, il y avait beaucoup de Fury et toutes sortes de cartes là, du format. Fait que oui, évidemment, là, The One Ring, là, on le rappelle, là, ça, c'est indestructible, 4 colorless. Quand il rentre en jeu, tu as protection de tout jusqu'à la fin. Jusqu'à ton prochain tour. Et puis, au début de ton upkeep, tu vas perdre un de vie pour chaque Burden Counter qu'il y a sur le ring. Puis, tu peux le taper, rajouter un Burden Counter, puis piger une carte par quantité de Burden Counter qu'il y a sur le ring. Fait que ça te permet d'avoir du gros card advantage. Ça te protège pour un tour. Si t'en joues 4, ben, si tu rejoues un autre, ben, ça fait juste le remplacer à cause du Legendary Rule.
Ouais, c'est vrai.
T'enlèves les Burdens. Il y en a qui parlaient de peut-être le balancer, que ça aurait été plus balancé si les Burden Counter allaient sur le joueur plutôt que l'artefact.
Ouais, c'est ça le problème.
C'est un peu ça le problème.
Ah, hein, je sais pas, moi, c'est la première affaire qui me saute aux yeux. Je pense que dans le dernier banlist, c'est qu'il y avait un véhicule de Kamigawa qui a été banni. Puis le
Bankbuster, ouais.
Ouais, l'idée c'est plus, étant donné que c'était pas verrouillé sur une couleur, pis ouais. t'as du card draw, whatever, c'était vraiment pourquoi un joueur, peu importe le deck qu'il construit, en mettrait pas.
Ouais.
Exact. C'est sûr que dans un deck aggro, c'est un peu cher, pis c'est pas tellement ce que tu veux, mais dans pas mal n'importe quel mid-range control. C'est quasiment gratuit, là. Tu mets ça dans ton deck puis tu pars ton decklist avec 54 cartes, là, avec 56 cartes. Puis c'est quand même drôle de voir à quel point l'interaction avec le Orkish Bowmasters qui sont. C'est comme s'ils se répondent l'une l'autre. Là. C'est une carte qui a l'air de qui est moins flashy, là. C'est pas l'anneau unique, mais c'est tellement fort puis ça.
C'est une belle réponse, justement, comme tu dis, à The One Ring.
Oui, c'est une réponse à toutes sortes d'affaires. Là, tu sais, c'est Flash 1-1 pour un colorless, un noir, quand rentre en jeu et quand ton adversaire pige une carte qui n'est pas sa première carte de son draw step, tu fais un dégât à n'importe quel target, là, n'importe quel target, puis tu amasses 1. Fait que, on a vu en masse là, des Orkish Bowmasters. Donc on peut regarder là, rapidement le top 8. Il s'est retrouvé quand même un peu de tous les decks qu'on a vu au début. Là, pas mal les top decks là, se sont retrouvés dans le top 8. Il n'y a pas eu vraiment de outlier ou de personnes qui ont amené une decklist un peu spicy là, qui a réussi à se faufiler dans les gagnants. On peut voir là, notamment Javier Dominguez avec Mono Green Tron, la Team Handshake, c'est le deck qu'il avait amené. Donc avec Dominguez, il y avait comme représentant Simon Nielsen également.
Oui, t'as 4 Trons là, dans le top 8.
Il y a 4 Trons, il renaît pas toute la même liste exactement. Tron, il y a plusieurs saveurs de Tron, ouais. Plusieurs types de. Plusieurs. Souvent, tu vas retrouver pas mal toutes les mêmes cartes, mais avec un de celles-là, deux de celles-là, trois de celles-là en place. Là. Oui, absolument. J'ai sorti les deux decklists là, des finalistes. On salue notamment la performance du Canadien Dominic Harvey qui était sur Amulet Titan, un deck que je n'ai pas les 800 pages du guide pour vous le décrire, là, puis vous l'expliquer. Peut-être que Jason pourrait plus en parler si ça y tente un jour. Là.
Non, il n'y a pas pas gagné. Faut que tu peux aller.
Il a pas gagné. Fait que ça sert à rien.
Andy, une question.
J'ai une petite question, bien niaiseuse, bien casual. Je te dirais, là, pourquoi il n'y a pas de japonais dans ce Pro Tour-là?
Ça a donné comme ça.
Souvent, on en voit plein, là, tu sais.
Mais je te dirais que, tu sais, autant l'année passée, les équipes japonaises qui travaillaient ensemble ont vraiment bien performé. Autant, là, je dirais, depuis un an, Team Handshake est vraiment dominante. Puis c'est une équipe qui est un peu plus globale. Tu sais, on voit ici là, Dominguez qui est là-dedans, qui est un Espagnol.
Okay.
Simon Nielsen qui est
norvégien. Je me demandais, est-ce que le fait que c'est du moderne, peut-être qu'ils sont moins experts en moderne qu'en standard?
C'est le Pro Tour c'est un Pro Tour qui avait du monde de partout de sa planète là.
OK. Mais c'est juste qu'on les voit souvent là.
Non, c'est vrai, parce que ça fait quelques Pro Tours là, que sont moins prééminents. Prééminents, tu sais, dans. À un moment donné, t'as eu une série là, de 3-4 tournois où est-ce que c'était japonais.
Oui, il était comme all-in.
T'en avais 3-4 sur le top 8.
Ok. Fait que c'est du hasard plus que d'autres choses. Ouais, c'est ça, c'est du hasard finalement.
C'est pas évident de faire un top 8 d'un Pro Tour. Tu vois Kai Bouda d'ailleurs, qu'il faut saluer sa présence sur un énième top 8. Là. C'est un gars qui a roulé sa bosse.
Il a passé le 20, je pense. Il a commencé en 97.
Il
avait arrêté un petit bout là, parce qu'à un moment donné, tu te tannes là. Mais il y a Running Gag, les cinq premières années des années 2000, Kai Bouda était tout le temps dans le top 8. Il est considéré comme un des deux meilleurs joueurs de Magic avec John Finkel.
Il est déjà dans le Hall of Fame.
T'as un slogan qui dit Kai Bouda fait toujours le jour 2.
Oui.
S'il est là,
il fait le dos. OK, c'est cool. OK, merci de ces petites informations.
Yes. J'ai sorti les deux decklists là, des finalistes. Tu avais le deck Tron de Cal Cano qui a fini deuxième. On voit là, évidemment la série des Urza's Mine, Power Plant et Tower autour de laquelle le deck
est construit.
Construit, puis le reste, je sais pas si t'as quelque chose à dire.
Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vois, le dernier Pro Tour moderne, et en vrai, là, c'est daté de 2019, qui était aussi à Barcelone et qui avait été gagné par Monovert Tron. Et à l'époque, c'était, dans le fond, là, tu rampais jusqu'à temps que t'avais Karn Liberated. Là, ce qu'on remarque vraiment, là, c'est que non seulement, bon, là, tu sais, The One Ring, on en a parlé, là, c'est l'anneau de Lord of the Ring qui prend une place centrale dans le deck, mais surtout, Karn the Great Creator, ça, c'est nouveau de cette année dans René 4, et que vous remarquez, le sideboard, c'est 15 cartes différentes. Fait que dans le fond, là, la façon dont le deck fonctionne, c'est
un wishboard.
C'est de sortir Karn Great Creator, te permet d'aller chercher une carte dans ton sideboard. Fait que tu vas chercher exactement ce que tu as besoin. Puis une fois que tu as assemblé ton Urzoton, le deck, la façon dont il est fait, là, autour 2-3, il y a ces trois laines en jeu. Là. Fait que autour 3, il y a son Urzoton, c'est très rare qu'il l'a pas là.
On l'a vu tout au long de la fin de semaine, là, ça arrivait souvent.
Puis, fait que tu vas chercher ce que tu as besoin selon peu importe contre quoi tu te bats, là, t'sais, que le deck que tu as en face de toi. Fait que tu sais, les 15 cartes dans le sideboard sont spécifiquement faites pour différentes situations. Fait que ça a l'air vraiment de. Ce deck-là, c'est vraiment une genre de grosse boîte à outils. Là. C'est une boîte à outils avec une variété d'outils selon ce que tu vas avoir à gérer.
Ouais, puis tes finishers, c'est genre un Wyrmcoil Engine, un Yugen the Spirit Dragon. Tu locks ton adversaire, puis puis un Ulamog, évidemment. Là. Mm. Tu lock out ton adversaire, puis tu finis avec un gros Haymaker. Mais sinon, celui qui a gagné, c'était avec le deck de Evoke, là, je vous en parlais. Là, qui est axé sur scammer, dans le fond, c'est-à-dire caster pour pas trop cher une créature, puis qui a un autre mode pour la ramener sur le battlefield très cheap. Par exemple, le Grief et Fury qui ont Evoke, que tu peux les caster. pour évoquer en exilant soit une black card de ta main ou une red card de ta main. La fin, c'est que quand tu évoques, tu dois le sacrifier à la fin du tour. Mais tu lui mets dessus un Undying Malice, par exemple, qui fait que quand la créature meurt, elle revient sur le battlefield tapée sous ton contrôle avec un plus un counter. Ça fait que si... ça fait que tu peux avoir sur le board, tour 1, un Grief qui a fait deux fois son ETB.
Ouais,
le Grief, là, il rentre en jeu. Tu fais discarter une carte à ton adversaire de ton choix qui est un non-land ou même le Fury là, qui pétait pas mal les decks axés sur les créatures. Là. On a vu rapidement sur la liste, il y a du monde qui ont amené le deck de Loop, de Samwise et le chat.
Le chaudron?
Ouais, ben le chat, il n'y a plus besoin de four. Là.
Non, il n'y a plus besoin de four. Hein.
Non, c'est ça, ouais. Il y a Samwise maintenant.
Il y a Samwise qui fait que quand tu casses une créature, ben dès qu'une créature entre en jeu, tu fais un food token. Fait que c'est le food token qui te permet de ramener le chat. Ça te prend juste un sac outlet comme le celui de Terros là, qui est pour gratuit que tu. Que tu scry, fait que tu sacrifies ton chat, tu le ramènes en jeu avec le food token, tu le sacrifies puis tu l'ouvres. Fait que si tu réussis à avoir ces trois pièces-là puis que l'autre n'a pas d'interaction, la game finit on the spot. Là.
Et j'aimerais mentionner, là, t'as 16 cartes dans ce deck-là qui sont de Modern Horizon 2.
Ouais.
Et c'est la plainte que je vois, là. En tout cas, moi que j'ai pas mal arrêté de jouer à Modern, notamment à cause de ça. Là. Je trouve que c'est Modern Horizon. C'est devenu le format Modern Horizon. Ça déclasse pas mal tous les anciens decks qu'il y avait, à part Tron. Étonnamment, Tron continue à se maintenir, mais les élémentales d'émotion, puis le Ragavan, c'est juste trop busté. Puis Doty, mm-hmm. Voidwalker aussi.
Doty Voidwalker, en plus, il était excellent contre le deck dont je viens de vous parler.
Oui.
Parce que les cartes dans le graveyard de ton adversaire s'exilent.
Oui. Fait que, tu sais, comme je veux dire, c'est vraiment le on dirait quasiment un deck de limité de Modern Horizon 2, tellement que Modern Horizon 2 est fort.
Ouais.
Je te repasse le micro.
Ouais. Ouais, leur objectif avec les Modern Horizon, c'était de shaker un peu le format moderne, parce que c'était un format qui était assez stable depuis un bout. Peut-être qu'ils l'ont trop shaké.
Ça a shaké puis il reste juste ça.
Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de cartes imprimées dans les dernières années qui n'ont pas nécessairement la meilleure synergie ensemble, mais la carte par elle-même amène tellement de value que, tu sais, comme on a parlé souvent de Fable of the Mirror Breaker, que juste la quantité de cartes que ton adversaire doit dépenser pour dealer avec. Ragavan, on s'entend que c'est un des meilleurs one-drops jamais imprimés, absolument, toutes couleurs confondues. Puis, même affaire avec Doty Voidbreaker, que les chances en modern ou genre que t'en retires du plus value, puis qu'en plus que c'est du graveyard hate, c'est why not. Orcish Bowmaster, tout le monde en parle. Fait que...
Furry, là, tu peux la caster gratis en jetant une carte rouge. Là.
Ouais.
Ouais.
Ça fait 4 de dégâts que tu divises. Je veux dire, ça enlève tous les decks aggro rapides.
Tous les decks de créatures, oublie ça. Là,
c'est les decks de human, oublie ça. Là.
Mm. Yep.
Puis Bowmaster, ben, ça a juste ajouté la petite goutte qui montait. Là. Fun fact, là, je regarde, là, tu sais, t'es comme dans les vieilles cartes. Tu sais, t'as Blood Moon.
Ouais, la Blood Moon contre les Urza.
Terminate. Ouais. Ouais, exactement. Terminate, c'est une vieille carte. Puis les Tough Seas. Tout le reste, c'est des cartes imprimées après. Ben, à part les Lands, bien sûr. Mais tout le reste, là, c'est des cartes imprimées après 2021.
Mm. Ben, même le tu parles de Modern Horizon 2 qui aurait imprimé, je pense, les Fetch. Fait.
Non, mais tu sais, les
Lands, on pas les reprints.
Je veux pas compter les reprints. Moi, je parle vraiment les cartes originales. T'as les Feign Debt, Gas of Safe Forgotten Realm 2021. T'as pas grand carte là, qui date d'avant. C'est quasiment un deck post-pandémie. Là.
Ouais.
Ouais, en effet.
Alors voilà ce qui s'est passé au Pro Tour Barcelona.
Écoute, je pense qu'on peut se lancer dans le moment qu'on adore tous, hein. Celui de la carte de la semaine, qui est une présentation du pub L'Adversaire, situé au 4303 Sainte-Catherine-Est. Si vous voyez dans la description de notre show, vous allez voir un lien, parce qu'on fait, Emmanuel, un draft dimanche. Parle-nous de ça, 5 secondes.
Oui, le prochain, c'est ce dimanche, donc le 6 août. On va rejouer à March of the Machine, un des excellents assets à drafter qui est sorti dans les derniers mois. Sinon, les autres qu'on a fait là, pendant le mois, ça a super bien été. Là, on a fait Le Seigneur des Anneaux, on s'est fait un petit retour sur Ravnica avec Guilds of Ravnica la dernière fois. Puis un petit draft surprise qui nous est réservé pour la fin du mois d'août, alors restez à l'affût.
Donc on s'en va écouter le Beat à Bone et on se voit de l'autre côté. De la semaine. Qui c'est qui l'a choisi cette semaine?
Je l'ai choisi. J'ai pris un petit peu d'avance sur notre deuxième partie de l'émission.
C'est un spoiler?
C'est un spoiler et à tout seigneur, tout honneur, c'est Ashiok, le retour mangeur de rêves. Ashiok, là, on savait qu'il traînait dans le coin. Là, ça fait un bout qui rôde.
Ben, niaisait avec Elspeth.
Ça date de Terrors Beyond Death.
Mais elle chuchotait dans l'oreille de Elishnorn. C'est à cause un petit peu d'elle.
Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai.
Qui a donné les cauchemars aux Phyrexiens. Je vous expliquerai tantôt là, pourquoi que Ashiok se retrouve sur Eldraine. Mais Ashiok sera sur Eldraine. Et en passant, ce sera la seule carte de Planeswalker du set. Et ils l'ont dit, ça va d'être pas mal l'orientation qu'ils prennent pour les prochaines années suite aux événements dans le lore, là, mais je pense que c'est aussi une décision mécanique là, de réduire le nombre de cartes de Planeswalker. Il y en aura seulement une par set. Okay. On nous a habitués à ce qu'il y en ait comme 3 ou 4, 5 là, selon les sets, souvent au moins 3. Là, ça va être une par set, that's it.
Ah, c'est bon. Ben, je veux dire, quand ils avaient annoncé qu'ils étaient pour ralentir la rotation, puis qu'ils semblaient avoir des efforts pour changer de la façon que Standard est joué, je pense que changer la façon que le monde construise leur deck avec un Planeswalker, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pas la pire idée au monde jusqu'à date.
Ouais. Fait qu'on verra. Fait que là, Ashiok est de Wicked Manipulator. 3 colorless, 2 noirs. Il arrive avec. Ashiok qui arrive avec 5 de loyauté. Si tu devrais payer de la vie alors que ta bibliothèque, ton deck a au moins autant de cartes que la vie que tu payes, tu exiles autant de cartes du top de ton deck à la place de payer cette vie.
Il faut que tu comptes le nombre de cartes que tu as dans tes mains, hein? Dans ton library, il me semble que c'est compliqué.
Oui, mais là, tu peux pas miller de la sorte, puis c'est rare que tu vas payer, mettons, plus que
d'accord,
vie pour une habilité. Là. Mais disons, tu payes du mana phyrexien, fait que si tu payes 2 de vie, ben, à la place de payer 2 de vie, t'exiles 2 cartes du top de ton deck. Pour +1, tu regardes les 2 premières cartes de ton deck, t'en exiles une et tu mets l'autre dans ta main. Pour -2, tu créer 2/1/1 Black Nightmare Creature Tokens qui disent qu'au début de ton combat, à ton tour, si tu as une carte qui a été mise en exil ce tour-ci, tu mets +1/+1 counter sur la créature. Fait qu'on voit la petite interaction. Et -7, target player exile les top X cartes de son deck, où X est le total mana value des cartes que toi tu possèdes en exil.
Mm-hmm. C'est concept.
C'est une espèce de, on exile tout le monde s'en va dans le monde des rêves.
Cool.
Ouais, fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est un drôle de passif là. T'sais, c'est très niché, mais je suis sûr qu'il y a plein d'interactions intéressantes à faire.
J'ai un feeling que c'est fait pour du draft sur Arena, là, dans le sens où est-ce que t'as pas à compter le nombre, tu sais combien que c'est écrit, le chiffre est à côté de ta librairie. Là,
on s'en fout.
Non, ça se peut, tu sais pas.
Je suis capable de compter jusqu'à 2.
C'est tout pour la carte de la semaine?
C'est ce que j'avais à vous montrer avec Ashiok, le Wicked Manipulator.
Eh bien, c'est le retour. Écoute, parlant de retour, on va retourner écouter le Beat à Bone et on se voit de l'autre côté avec des spoilers. De retour avec, je crois qu'Emmanuel veut nous annoncer quelque chose.
Breaking news pendant l'enregistrement. Je viens de voir ça sur les internets pendant qu'on écoutait le Beat à Bone. J'ai vu la nouvelle tomber. L'anneau unique a été vendu officiellement. Et devinez à qui? Nul autre que Post Malone, notre rappeur joueur de Magic préféré.
Il a acheté combien?
2,6 millions.
Holy fucking shit. Fait qu'il est officialisé. Parce que le magasin, il a juste comme peut-être fait une joke. Là. Il n'y avait rien d'officiel. Là. C'est pas comme un contrat qui attendait une signature de quelqu'un. Tu sais. Mais tu sais, comme le magasin qui a offert ce prix-là.
Ben là, je veux dire, c'était une offre. Là,
c'est ça,
au
je veux
vendeur
dire,
de la prendre ou pas. Là.
Mais Post Malone a officialisé ça. C'est ça, je veux dire.
Post Malone, c'est un des premiers qui était sorti quand le 1 de 1 avait été annoncé, disant si vous le trouvez, je veux l'acheter. À ce moment-là, c'était comme le premier qui avait mis un bid entre guillemets dessus. Il avait dit je vous le prends pour 100 000.
Allô? Mais ben, c'était pas fou, là, 100 000. Tu sais, même 100 000, t'es comme, mais Chris, c'est bon.
Ben, c'était les premiers, là, pour vrai. Le monde disait, oh, ouais, peut-être 100 000, là, peut-être ça va monter jusqu'à 1 million. Donc voilà, félicitations aux vendeurs, aux
Canadiens.
oui, et puis également à Post Malone. Je suis content qu'il soit.
Moi, j'aime ça a l'air d'être Post un bon Malone.
Ouais.
Parce que, tu sais, ça, de tout. Je vais faire un parallèle vraiment poche. Là. Des fois, ils trouvent, mettons, des masques africains, puis tu le sais que ça se ramasse dans un donjon sexuel nowhere. Post Malone, il a l'air chill, puis.
Dans ce moment, il fait attention. Mais Trip Magic, c'est un joueur de Magic.
Au moins, c'est pas Jake Paul. C'est pas Jake Paul qui l'a acheté.
Je vais faire une comparaison tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Wu-Tang avait fait un album exclusif. Ouais.
Ben oui, c'était Skrilli qui l'a acheté.
Martin Skrilli qui l'a acheté en disant
je vais le faire dans un groupe qui s'était ramassé de l'acheter. Puis après ça, après les saisies, c'était comme, je ne me souviens plus qui c'est qui l'avait, genre comme quelqu'un du cabinet Trump quand ils l'ont arrêté. Puis t'es juste comme, non, cet album-là, c'était juste comme pas le fun. Moins qu'on en parle, je vais arrêter d'en parler, mieux qu'on se porte. Fait que Post Malone qui a acheté cette carte-là, je trouve ça fair. Genre,
ça fait une belle histoire.
Ça fait une belle petite conclusion.
Au moins, c'est pas une douche qu'il a acheté puis qu'il l'a déchiré après. Ça, que... Malgré que je le ferais, là, avoir beaucoup, beaucoup d'argent, ça pourrait être une joke. Là.
Alright, fait que sinon, écoute, il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de previews qui nous sont parvenues outre-Atlantique là, de Barcelona. En commençant par pas tout de suite Eldraine, c'est trop bientôt. On va sauter un set puis on va aller tout de suite dans The Lost Caverns of Ixalan.
All the world.
On a eu un premier teaser.
J'aime l'infographie.
Je
trouve qu'ils ont comme modernisé le concept du jeu pulp là, genre je m'attends
et années 60, années 50 genre.
Ouais là c'est comme ça, j'ai le feeling Bob Moran l'aventurier en regardant ça là.
Ou l'affaire de Mars là, le gars qui est sur Mars, j'ai oublié, il y a eu un film là-dessus
le John Carter of Mars parce que
oui c'est ça.
Juste faire un petit rappel, le Ixalan original c'était un set qui mélangeait les pirates et le concept des
Inca.
Ben non, mais surtout des îles disparues, des îles mystérieuses disparues qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dessus. Puis là, on se rend compte que c'est un empire Inca qui raide des dinosaures, hein, parce que ça aussi, c'est très trope. C'est comme tu dis, là, c'est pulp, là, c'est les magazines des années 30. Et là, dans Lost Cavern of Ixalan, c'est la suite. Fait qu'on va rentrer dans les profondeurs. Vas-y.
Lost Cavern, semble-t-il qu'au centre d'Ixalan, il y a un soleil, toi chose. C'est un monde creux. Les gens, sortez vos petits chapeaux en aluminium. la terre d'Ixalan est creuse. Et au centre des assises, il y a des résidents, il y a du monde qui habite là.
Des dinosaures.
De l'intra-terre.
C'est sûr.
Les
intraterrestres. Ouais. C'est sûr qu'il y a des dinosaures. Ixalan n'est pas Ixalan sans des dinosaures. Mm. On garde l'inspiration le méso-américaine. On va revoir Whatley, poète of Unity, qui va revenir. Ça a été annoncé, elle a été disparkée. Bon. Elle va être là en tant que créature légendaire. Ce ne sera donc pas la Planeswalker de ce set-là. On verra
c'est Ashok. Qui.
Ben non.
Ah non, Ashok est dans le drain, hein, c'est vrai. Alors, continue.
C'est peut-être le retour de... je sais pas, le Minotaur.
Ou Garrok, là. Garrok.
Je pense que ça va être Ingrat. Ben non, Ingrat, il avait crissé son cadre là. Ah, peu importe, on continue avec ça.
On verra. Puis, tu sais, dans le fond, ça va être vraiment la rencontre des peuples qu'on connaît de Ixalan et des habitants de cet autre monde.
C'est quoi ça?
De dieux. Ça, c'est un dieu qui ont. Amicalement rebaptisé Dino Hands. Vous irez voir les images.
Check ça.
Oui, vous allez voir, il va y avoir plusieurs dieux parce que les gens qui sont au centre se nourrissent de l'espèce d'énergie, le cosmium créé par le soleil central et tout ça. Ça reste encore à flèche haute là, ce qui va se passer, mais on a eu quelques petites bribes d'informations. Donc, il y aura des dieux. Il n'y avait pas de dieux dans les premiers Ixalan. Il y avait comme les Primal Dinosaurs. Ouais, là. Il y avait les gros dinosaures, Zakama, Zetalpa, etc. Mais là, il va y avoir des dieux, donc dont Olier, Axonil, Deepest Might. Ça promet pour Ixalan là, qui va sortir vers la fin de l'année.
Si je peux me permettre, là, tu avais des indices. Je sais pas si tu peux me passer l'écran.
Ah, tu peux le prendre direct.
Oui.
Ouais. Tout le monde peut partager.
Voyez-vous mes vieilles cartes d'Ixalan en ce moment?
Ça s'en vient.
Ça load.
Ah, les
voilà.
Ouais. Donc, dans le vieux set d'Ixalan, hein, on se rappelle l'espèce de gros bonhomme avec la tête en forme de crâne. Il y avait quelques indices là, qui nous donnaient à penser qui étaient basés sur. Où c'est qu'il est? Je le trouve plus, là, pour juste faire exprès. Là.
Le Cave Sun?
Non, c'est le. Donne-moi 5 secondes. 5 mm-hmm. secondes.
T'as
le temps.
5 secondes. Silent Gravestone sur Silent Gravestone, qui est un artefact rare dans Rival of Ixalan, qui était juste une carte là, qui faisait que les spells dans Graveyard ne pouvaient pas être targetés. C'est une carte qui n'a pas vu de jeu, dans le fond, là, mais le symbole qu'on voit, c'est une espèce de crâne avec une couronne en mort. Les couronnes en mort, généralement, dans le monde d'Ixalan, ça représente le Immortal Sun, hein, qui est l'espèce de... En tout cas, vous retournez voir notre épisode numéro 38 sur Ixalan. Donc, ça aurait peut-être un lien là avec ça, je pense. Et aussi le fait que... Parce qu'il y a comme des chauves-souris qu'on voit sur le artwork autour de lui. Ça, c'était dans Ixalan et non dans Rival of Ixalan. J'ai oublié son nom, mais il y avait une espèce de dieu chauve-souris qui était... Il y avait pas de carte, là, mais il y avait plusieurs, surtout dans le noir...
Des allusions.
Des allusions à une chauve-souris qui gardait un temple dans ce coin-là. Et donc, je pense là, que c'est... Ils se sont un peu basés là-dessus. Bon, juste pour exprès, je le trouve pas, là, mais bon... retournez voir notre épisode de lore sur Ixalan. Moi, je pense que l'espèce de gros bonhomme avec la face de crâne qui a un bras en dinosaure, c'est le dieu Evil qu'on avait quelques allusions dans le vieux set.
Ben, l'emplacement de son crâne, puis si on regarde le triangle qui est au-dessus de sa tête, puis le petit triangle en bas de sa tête, c'est carrément
l'Immortal Sun.
Non, c'est l'infographie du calendrier Maya qui annonce la fin du monde qu'on voit constamment à toutes les trois films hollywoodiens.
Bien, je vais la retrouver ici. Là, c'était la carte Argel Bloodfast dans Ixalan. Dans le fond, ça montrait là, les vampires avaient des espèces de cultes là, où il faisait un jeûne du sang, il buvait pas de sang, fait qu'il devenait comme genre high un peu, là. Fait qu'on voit sur Urgell Bloodfast, il y a une espèce de tête flottante de chauve-souris, et à l'endroit de la carte, ça dit,
ah ben oui, ça dit
que c'est le temple d'Akladzodz, qui est le Bat God of Night, hein, le dieu chauve-souris de la nuit.
I am the night.
Fait que je sais pas, ça a peut-être un rapport avec ça ou pas pantoute, puis je suis dans
le champ. Ça serait niaiseux que ça s'appelle le Bat God.
Non, mais sur l'image, il y a des...
Tous à la Batcave.
Ouais, non, mais si tu checkes sur l'image qu'Emmanuel a montré tantôt, on voit des genres de chauves-souris.
Ouais, ouais, mais il va leur partager.
Oui, ouais. Oui. Oui, on voit il y a même des riders de chauves-souris, ouais. Tout ça. Ouais. Sinon, également, qui s'en vient en octobre, c'est... vous aurez peut-être un niveau d'excitation variable. C'est le Universes Beyond de Doctor Who.
Moi, j'aime bien ça.
Parce que oui, Magic fait un crossover avec Doctor Who, une franchise vieille de
c'est la plus vieille. C'est le plus vieux sci-fi de tous les temps, là. Je veux dire, les affaires qui le dépassent, c'est genre les Days of Our Lives de ce monde, là, les soap opera, mais sinon, en tant que sci-fi série, c'est Doctor Who qui est comme
Je pense que la série télé, pendant un bout, qui est en compétition avec Corner Street, mais c'est,
je pense,
en termes de saison, comme qu'il y a toujours du contenu créé pratiquement à chaque année, ouais. Doctor Who, juste par sa longévité, fait que c'est une institution.
Ils ont eu un break de 15 ans, mais c'est
vraiment... Ouais, mais ils faisaient quand même des petits téléfilms ou genre... Ouais. Il y avait
du audio,
il y avait
Christmas Special.
Ouais, ouais, il y avait beaucoup d'audiobooks, il y a eu le film. Moi, je trippe. J'ai bien hâte de la nouvelle saison qui s'en vient, là, justement. Ça tombe bien, hein? La nouvelle saison s'en vient. Puis...
Fait qu'ils ont commencé à révéler des cartes. Fait qu'on en sait un peu plus là, sur de quoi ça va avoir l'air. Pour vous rappeler, là, ça va être un peu le même concept que quand il avait fait le Universes Beyond de Warhammer 40 000, c'est-à-dire qu'ils vont sortir 4 decks préconstruits de Commander avec principalement des nouvelles cartes inspirées de l'univers de Doctor Who, mais également certains reprints classiques de Commander avec un artwork différent là, pour les mettre à la sauce Doctor Who, la sauce Whovienne, si vous voulez. Puis également, ce qu'il avait pas fait avec Warhammer 40 000, puis bon, ça, c'est pour d'autres, des personnes un peu plus pointues, ils vont sortir également des Collector Boosters.
Ouh. C'est un meilleur move que 40 000, je pense, c'est que t'avais les collecteurs de base, puis il y avait...
Que les premium decks, là, qui coûtaient 450$ pour qu'ils soient bien pringlés, là.
Ouais.
Ouais, il y avait sorti des decks que tu pouvais acheter qui étaient, ils étaient juste tout foil, okay. Puis ils étaient vraiment trop chers.
Le MSRP, au début, c'était ceux qui les ont pognés en précommande avant que ça explose. Les decks préconstruits étaient quand même abordables.
Ouais.
Un peu comme ce qui vient d'arriver récemment avec Commander Master. Aussitôt que les decklists ont commencé à être révélés, il y a eu énormément de spéculation sur les prix. Mais je préfère avoir des boosters à 20, 30, 40 $ premium que... Un pre-con, je sais pas comment, quel point il est rendu, là. Ils ont un boutique du coin, là, mais.
Puis, tu sais, la façon qu'ils vendent, c'est que c'est là que tu vas retrouver, parce que dans le deck Commander, c'est tout le même art, ben là, c'est là qu'ils se permettent de faire des alt art, tu sais, avec des cadres différents, avec peut-être des styles différents, des mêmes cartes qui vont se retrouver dans les decks. Je vous en ai sorti quelques-uns. Si vous êtes intéressé, là, vous irez voir les autres previews. Là. Par exemple, le quatrième docteur qui va être dans le deck, le premier deck qui est axé sur les docteurs 1 à 8.
Mm-hmm.
Fait comme les premières générations. 4-4, 2 colorless, un vert, un bleu, Legendary Creature, là, c'est Ça va être tous des Time Lord Doctor. You may look at the top card of your library anytime. Fait que tu peux toujours regarder la première carte de ton deck. Et une fois par tour, tu peux jouer un Historic Land ou un Historic Spell du top de ton deck. Si tu le fais, tu fais un Food Token. Vous voyez qu'il tend un sac de bonbons.
C'est sa running joke. Là, c'est qu'il ça. Disait, would you like a jelly bean?
Jelly Baby.
Jelly Baby, c'est vrai.
Et le Food Token, c'est un sac de Jelly Baby. Donc c'est un beau clin d'œil. Il y a également un food token, là, je vous le dis tout de suite, de fish stick in a custard.
Ouais, du trait du 11e, ouais, 11e docteur.
Yep. Le TARDIS qui est là, bien évidemment, on peut pas parler de Doctor Who sans le TARDIS. Puis là, vous voyez un des...
C'est la cabine téléphonique, là?
La cabine téléphonique, c'est la machine à voyager dans le temps. C'est également qu'il y a même une personnalité, là, qui a une conscience. Puis j'ai sorti la version, c'est une des versions alternatives, là, justement, pour vous montrer. C'est un véhicule, bien sûr, deux colorless pour une 2-4 qui a Crew 2, qui a Flyer. Et à chaque fois que le TARDIS attaque, si tu contrôles un Time Lord de ton prochain spell, cascade et tu peux Planeswalk parce que c'est un set dans le fond avec des Plane Chase. Fait qu'ils vont sortir plusieurs.
C'est logique, plans. Là, c'est une bonne idée.
Effectivement, logique, c'est une bonne idée. Il avait ramené Plane Chase avec Commander Master. Fait que ils se sont dit dans la foulée de ça, allons-y. Puis ça fit très bien là, avec Doctor Who. Fait que
c'est toutes des bonnes idées. C'est...
J'aime ça que je pense que Galvin en a parlé que pour le Chaos Deck, il avait poussé la mécanique cascade, qui trouvait que ça fitait thématiquement avec le chaos. Puis cet élément-là du TARDIS, que le TARDIS t'amène pas nécessairement si tu veux, mais où est-ce que tu as besoin d'aide, qui c'est un peu chaotique. Je trouve ça intéressant.
Puis on peut voir après ça le deuxième deck, c'est les docteurs 9 à 11. On voit ici le dixième docteur. 3 colorless, un bleu, un rouge. 3-5. Allons-y! À chaque fois que tu attaques, tu exiles des cartes du top de ton deck jusqu'à ce que tu exiles un non-land card. Tu mets 3 time counter dessus. Et s'il n'y a pas suspend, il gagne suspend. Fait que dans le fond, tu le suspends 3. Puis tu peux payer 7 colorless pour time travel 3 times que tu l'actives seulement à sorcery. Mais qu'est-ce que time travel?
Ben oui.
C'est une mécanique qui ont mis qui fit dans le fond, c'est qu'à chaque fois pour chaque carte qui est suspendue que tu possèdes et chaque permanent que tu contrôles avec un time counter dessus, tu peux soit ajouter ou enlever un time counter. Fait que quand tu time travel 3 fois, ben là tu peux rajouter ou enlever. Fait que si t'avais exilé par exemple une carte suspend 3, ben là si
tu peux payer 7 pour la jouer.
La jouer et même le faire avec chaque carte là, qui a été suspend, là, parce que tu peux le faire avec toutes les cartes en même temps. C'est une espèce de proliferate weird là, que tu peux enlever ou rajouter.
C'est que tu gardes un contrôle sur tes cartes dans le fond parce que tu peux en garder suspendu si tu veux.
Puis va voir qu'il y a d'autres time counters là, sur d'autres cartes probablement qui sont pas suspendues, que ça peut-être que c'est tentant de rajouter des.
Puis j'aime parce que c'est Doctor Who là, fait que les docteurs c'est tous le même docteur mais ils ont pas toutes la même personnalité. Fait que j'aime que lui il est bleu rouge, l'autre il était bleu vert puis probablement il va en avoir d'autres qui vont d'autres couleurs. Là, fait que
c'est La structure de suspend fit avec une saison de Doctor Who, c'est que t'as l'introduction du vilain ou d'une grande angoisse. Elle reste en background, il y a des filler épisodes, mais tu sais, il y a toujours un 2-3 minutes comme pour te rappeler que c'est en background. Après ça, t'as le three part qui te saute en pleine face, puis t'es comme that's it, c'est là que ça se passe.
Ouais. Puis qui dit docteur dit évidemment les compagnons. Fait qu'il y en ont déjà sorti quelques-uns, dont Rose Tyler qui va bien avec le docteur qu'on vient de voir. Un colorless, un blanc pour une 2-2 human. Elle a +1/+1 pour chaque time counter dessus, tu vois. Ça interagit avec le dixième docteur. Bad Wolf, à chaque fois que Rose Tyler attaque, tu mets un time counter dessus pour chaque suspended card que tu contrôles, que tu possèdes, et chaque autre permanent que tu contrôles avec un time counter dessus. Et là, Doctor's Companion, fait que chaque compagnon va avoir cette petite ligne-là, que tu peux avoir deux commanders si l'autre est un docteur.
Ah, c'est donc belle fun. Fait que là, tu peux jouer presque du trois couleurs, puis du...
Ben, le deck, c'est un deck de trois couleurs à cause de ça.
Ah, c'est nice.
Parce que c'est bleu, rouge et blanc. Et même chose là, avec le précédent docteur, là, c'est vert, bleu et...
ça doit être... comment elle s'appelle? J'ai
oublié. Ouais, elle est sortie aussi, là, je ne l'ai pas toutes mis. Là. Vous irez voir, mais c'est aussi un deck à trois couleurs.
OK.
Dans une créature verte que j'ai sorti, que je trouvais drôle, il ramène la mécanique Foretell, ça aussi, ça fait bien avec l'univers de Doctor Who, The Foretold Soldier, d'ailleurs, deux colorless, deux verts pour une 6-6 Alien Zombie Soldier. Yeah. C'est la deuxième fois qu'il y a un creature type Alien, la dernière fois c'était dans Unfinity.
Oh oui, c'est vrai.
The Foretold Soldier doit être bloqué si possible. Foretold Soldier peut être bloqué par plus qu'une créature.
En effet.
Et s'il fait du dommage, tu l'exiles face down et il devient foretold. Tu peux le foretell pour un colorless ou un vert.
Ça fit avec l'épisode, c'est super cool, j'aime ça.
Oui, tu vois, je vais
y trouver mon compte. Je risque de toutes les acheter. ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Plus que Warhammer.
Oui, pas mal plus.
Sinon, le dernier deck, parce que c'est la créature, ça venait du troisième deck qui est pour les 12 et 13. Le dernier deck, c'est les Great Villains, là, c'est les gros puffins du monde de Doctor Who, piloté par Davros, le créateur des Daleks, évidemment. Un des ennemis légendaires de Doctor Who.
C'est pas le...
Ouais, c'est celui que le monde reconnaisse le plus souvent, ça, avec les Cybermen et peut-être Missy qui est également là.
Ben, le Master,
Ouais, The Master. Menace 3-4 pour un colorless, un bleu, un noir, un rouge. Au début de ton end step, tu fais un 3-3 Black Dalek Artifact Creature Token avec menace si un adversaire a perdu 3 vies ou plus ce tour-ci. Ensuite, chaque adversaire qui ont perdu 3 vies ou plus doivent
faire face à un choix vilain. choix de méchant.
Ouais.
Soit
tu piges une carte ou ce joueur-là discarte une carte. Donc les Daleks, là, ça va être des 3-3 Artifact Creature Token avec menace. Évidemment, Exterminate!
Exterminate!
Deux colorless, un noir sorcery qui a Replicate pour chaque untap d'Alec que tu contrôles, que tu tapes pour le répliquer. Fait que tu copies le spell pour chaque Dalek que tu tapes. Destroy Target Creature et son contrôleur perd 3 de vie. On voit qu'il y a un petit rappel sur l'habilité de Davros. Donc voilà. Sinon, on parlait justement des Cybermen puis du Master. Il se retrouve sur les sagas parce que oui, il y a plusieurs sagas. Chaque docteur va avoir sa saga qui rappelle un peu son histoire. Ici, on a Death in Heaven, 3 colorless, 1 noir. Les deux premiers chapitres, le Target Player se mille de 2 cartes et ensuite exile son graveyard. Et ensuite le dernier chapitre, tu mets toutes les créatures exilées avec la saga sur le battlefield face down sous ton contrôle. Elles sont des Cybermen, deux Artifact Creature, puis les Cybermen, ça va être une espèce de morph étrange. Où est-ce que tu as la 2-2 puis une créature qui est cachée en dessous.
C'est cool.
Yep. Alors voilà pour Doctor Who, puis pour terminer, River Song, spoiler alert, c'est son trademark. Un colorless, un bleu, un rouge, Human Time Lord Rogue 2-2. Tu piges les cartes du dessous de ton library plutôt que du top.
C'est normal. Ouais, c'est concept.
Parce que dans l'histoire, son temps va à l'envers.
Ouais.
elle recule dans le temps. À chaque fois qu'un puis spoilers, à chaque fois qu'un adversaire scry, surveil ou cherche son library, tu mets +1/+1 counter sur River Song et ensuite elle fait du dommage à ce joueur équivalent à son power. Ça en commander, ça risque d'être assez méchant.
Quand même, ouais. Ah, c'est cool.
Non, c'était vraiment intéressant comme personnage.
Oui, vraiment.
Que c'est comme on la croise pour la première fois à la fin de sa vie.
Ouais.
Puis on apprend à connaître le personnage au même rythme que le docteur. Je trouvais que c'était une belle mécanique d'écriture.
Oui, absolument.
Qui ont réussi.
Yes, alors voilà pour Doctor Who. À suivre, là, il y en a d'autres qui sont sortis, là, si ça vous intéresse, d'autres spoilers. Sinon, on se plonge là, dans ce qui s'en vient très prochainement. Wilds of Eldraine, c'est les vrais previews vont commencer là, d'ici dans les prochaines semaines. Mais ils nous ont gâtés, ils nous en ont envoyé une coupe. On a déjà vu Ashiok. On voit tout de suite qu'il y a un nouveau cycle de Menlands qui va sortir. Les lands qui se transforment en créatures et elles seront deux couleurs et juste le cycle de paire ennemi. On voit ici le blanc-noir. Elle rentre sur le battlefield tapé. C'est le Restless Fortress. Tu peux payer deux colorless, un blanc, un noir pour la transformer en 1/4 White and Black Nightmare Creature. Jusqu'à la fin du tour, ça demeure un land. Et lorsqu'elle attaque, le joueur défendant perd 2 de vie et tu gagnes 2 de vie.
C'est les châteaux d'Eldraine qui ont été détruits dans l'invasion parce que toi, ça c'est Ardenvale, ben oui. C'est le château blanc dans le
exact, là, puis on voit qu'il y a comme une grosse bouche là, qui se forme. Mm. En fait, c'est là on va voir, c'est ce qu'il disait qu'on allait voir pour la première fois les
effets.
Les effets de l'invasion phyrexienne et ce qui s'en passe. Et puis effectivement, ce qui se passe là sur Eldraine, principalement, c'est que le peuple du plan est aux prises avec de Wicked Slumber, qui est un spell qui avait été casté par Talion, qu'on va voir ici. Talion de Kindly Lord. Qui a été casté pour protéger le plan contre l'invasion phyrexienne, sauf que là, ils ont perdu un peu le contrôle.
Il y a Ashiok qui est là.
Ouais, elle a mis tout le monde, c'est la Belle au Bois dormant. Là.
C'est un peu ça le concept. Là, pour le
c'est comme Alifation, dans le fond.
Pour qu'il se complete, puis là, Ashiok est arrivé, puis il a fucké le chien, dans le fond.
Ça fait là, ça
monde,
marche.
Si tout le monde dort, là, écoute.
Il y a beaucoup de cauchemars à aller manger.
On va se faire un time là-dessus.
Ouais, c'est cool comme
concept. Puis vous allez remarquer, le premier Throne of Eldraine était beaucoup. Il y avait beaucoup de légendes arthuriennes, un petit peu de contes de fées. Là, celui-là, ça va être principalement sur les contes de fées. Anderson et autres. Un peu moins de légendes arthuriennes. Ça reste une thématique, là, mais ils vont se concentrer beaucoup plus sur les contes de fées. Puis chaque paire de couleurs a comme son archétype inspiré d'un conte de fées particulier. Okay. Comme tu vois justement le noir-bleu avec Talion de Kindly Lord, c'est la Belle au Bois dormant. C'est donc le Fairy Noble Flying 3-4. Quand tu rentres sur le battlefield, tu choisis un chiffre entre 1 et 10, puis tu demandes à ton adversaire de deviner. Non, c'est pas vrai. Si ton adversaire caste un spell avec mana value, power ou toughness équivalente au chiffre que tu as choisi, cette personne perd 2 de vie et tu piges une carte.
On tape-tu que 3 va être utilisé souvent?
plus 1 ou 2.
Ben, 3! Parce que power, toughness, mana value.
Écoute. 3. Si tu choisis 10, t'es audacieux.
T'as pas compris comment ça marche.
Ouais, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant comme justement Commander. Parce que, tu sais, on s'entend, là, on l'a vu tantôt dans Sideboard, tout le monde met le calice. Là. Puis, en Modern. Puis, on s'entend que ça, c'est le calice, c'est un hate card qui mérite d'être joué. Ça, je trouve que. Le nombre va changer dans une game multiplayer ou en fonction du monde à qui tu joues puis en fonction de la méta. Mm. Mais ça titille l'imagination. Juste là, on est là comme Jason 2, NTJ 3.
Ça te force à penser, OK, qu'est-ce qui est le plus dangereux, qu'est-ce qui a le plus de chances de sortir. C'est intéressant.
Tu te ramasses, tu joues contre quelqu'un qui vient qui passe son Winnie deck, puis là tu fais comme ok, je veux le punir à toutes les fois qu'il pop des humains. Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de versatilité là-dessus, j'aime ça.
Yep, fait que donc Talion n'était pas seul dans son pour faire le spell, là, il a pris l'aide des trois sœurs sorcières. Leurs cartes sont pas encore sorties, mais on a vu le art, puis on sait qu'ils vont être associés des paires de couleurs. Là, par exemple, ici, Agatha of the Vile Cauldron, qui est bleu-blanc. Donc, c'est noir-vert, qui est inspiré de Hansel et Gretel. Tu vas avoir Harriet of the Charmed Apple, qui est inspiré de... je n'ai pas celle-là, mais c'est
pas la sorcière dans Blanche-Neige.
C'est Blanche-Neige, là, oui, avec la pomme, puis
le
miroir, ça, on l'avait déjà vu.
Le miroir, si tu regardes la réflexion de sa face dans le miroir de son manteau.
Ah, oui, à gauche.
Comme vieille. Et puis l'autre, c'est inspiré de la Reine des Neiges, là, c'est genre la Ice Queen, là, de pas le film de...
Non, pas Frozen, mais... c'est ça, la vraie Ice Queen.
Le conte de Hans Christian Andersen, puis ça c'est bleu-blanc, fait qu'on peut voir déjà un peu ce qui se passe. Sinon, ben Ashiok, qu'on l'a vu comme carte de la semaine, il ramène les Food Tokens.
Ah, il est équipé,
Redman.
Et un des commentaires qu'il avait pris du premier Eldraine, c'est qu'il voulait avoir plus d'interactions
avec
d'interactions plus agressives avec le foot, parce que ça crée des fois des stalls où est-ce que le monde gagnait trop de vie, puis ça stallait un peu, fait que il y a peut-être plus de creature food comme on avait vu avec le premier Throne of Eldraine. Ici on voit le Tough Cookie, un colorless, un vert, un jeu de mots savoureux, 2-2. Quand tu rentres sur le battlefield, tu crées un food token. Tu peux payer 2 colorless, un vert, pour que target non-creature artifact que tu contrôles devienne un 4-4 artifact creature jusqu'à la fin du tour. Sinon, il y a l'habilité d'un food, là, fait que tu peux payer 2 le sacrifier pour gagner 3 de vie.
C'est fantastique.
Ça te permet de non seulement d'être lui-même une créature food, mais de transformer
un autre food en plus grosse en 4-4. Créature, encore plus boosté.
Yes, puis on peut voir les espèces de pudding evil qui flottent autour. Sinon, c'est le retour de la mécanique Adventure. Évidemment, ça avait été introduit avec Throne of Eldraine. Un fan favorite. Il le ramène. Par contre, là, on va voir pour la première fois des aventures avec 2 couleurs.
OK.
Que la carte principale est une couleur et puis l'aventure est une autre couleur. Ils ont dit qu'il va en avoir qui va être de la même couleur là, quand même. Là, ça sera pas juste des aventures de 2 couleurs. Mais par exemple, ils ont mis ici le Cruel Somnophage qui se nourrit du sommeil. Un colorless, un noir pour un Nightmare qui a Power Toughness équivalent au nombre de creature cards dans tous les graveyards. Fait que ça pourrait mourir en rentrant sur le battlefield. Mais pour l'aider un peu, t'as son aventure en sorcery, un colorless, un bleu qui fait mêler de 4 target players. On voit qu'il va voir le retour du mille, possiblement en grosse mécanique. Là,
ça fit avec les cauchemars, le sommeil et tout ça.
Effectivement. La dernière carte qu'ils ont sorti, certains ont déjà commencé à le baptiser le White Creature Oof Behemoth. C'est un gros finisher de 5 colorless, 3 blancs pour une 6-6 Spirit Knight avec Flying. Quand elle rentre sur le battlefield, toutes les créatures que tu contrôles gagnent Flying et +6/+6 jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre de créatures que tu contrôles. Ça coûte cher, mais c'est un gros finisher. Malheureusement, lui n'a pas haste comme le Creature of Behemoth, qui faisait à peu près le même effet, mais donnait Trample à la place de Flying. Mais ça, c'est
un peu plus. Écoute, Flying à tous tes chevaliers 1-1.
Ils sont plus 1-1, ils sont rendus XX.
Ben, ils sont rendus gros. C'est un bon finisher. Écoute, je te remercie beaucoup, Eman. Le temps file.
Attends, il reste une petite affaire. Okay, une petite affaire, une petite surprise pour Eldraine.
On a le temps encore, là, gang.
Ok, c'est bon.
Il ramène un bonus sheet. La dernière fois, c'était avec March of the Machine. Là, ils en ont fait pas mal là, ces derniers temps. Mark Rosewater a dit qu'il allait slacker un peu là-dessus, mais le monde aime ça, puis c'est le fun. Donc, il ramène un bonus sheet, donc 63 cartes hors du set, de reprint, axé sur une thématique.
Tu parles comme les artefacts de Brothers War.
Oui, comme les créatures légendaires dans, okay, dans March of the Machine. Cette fois-ci, le premier Throne of Eldraine était très beaucoup d'enchantements, beaucoup d'artefacts. Là, ça va être surtout sur les enchantements. Donc, ce sera une bonus sheet d'enchantements. Donc, plusieurs reprints. Certains vont se lâcher les babines. Certains vont faire des cauchemars. on peut voir tout de suite ici le Greater Oromancy, un reprint que ça faisait longtemps. Là, c'est la dernière fois qu'on l'avait vu, qui donne Shroud à tous les autres enchantements et que les créatures enchantées que tu contrôles ont Shroud, Smothering Tide, un classique de Commander, Curiosity, Rhystic Study, un autre classique qui fait que quand tes adversaires castent un spell, tu piges une carte à moins que celui-ci paye un. Si tu veux être la personne fatigante dans un game multiplayer, tu joues Rhystic Study. Est-ce que tu payes un? Nécropotence, un autre classique. Aggravated Assault pour les decks aggro. Dans le rouge, Doubling Season et Prismatic Omen. Donc il y en aura.
Ils sont allés avec. Oui, oui. Je pense. Tu nommes un enchantement dans chacune des couleurs que les fans de cette couleur-là aiment.
Je pense qu'il est là.
Absolument. Oh, ils ont pas lésiné. Ouais.
Ah, c'est
fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout ça. Mais voilà. Alors c'est bien excitant.
Je te remercie beaucoup, Eman. Merci, Andy. Merci, Jonathan. Je vous rappelle qu'on fait un draft au pub l'adversaire ce dimanche qui s'en vient. Vous pouvez trouver le formulaire d'inscription dans la description du show. Je remercie aussi Martin Godette au montage. On vous invite à vous abonner à notre page Facebook. On a un Discord. On a aussi le YouTube. Laissez des commentaires. Ça nous fait beaucoup rire. On se les partage.
Ouais.
Et sinon, j'invite... On espère que les elfes de Kaladesh vont relâcher Tommy d'ici la semaine prochaine, et sinon, eh bien, je vous souhaite d'être le moins manascrou possible.
Membre de la famille H2O Web Media.